Salut, c'est Rafik de l'équipe Livre de Foot. On reprend du service pour 2024. Déjà, je tenais à m'excuser pour la petite absence sur le début d'année. L'année a été chargée, le début d'année a été très chargé au niveau pro et perso, donc compliqué pour moi de trouver de la bombe passante afin de vous livrer les différents entretiens que j'ai pu enregistrer sur la fin 2023. Alors, cette fin d'année 2023, fin décembre, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Victor Macias, l'auteur du bouquin La Narcos League, Argent sale et football colombien des années 1970 à nos jours, publié aux éditions L'Armatan. Dans cet ouvrage, au titre explicite, l'auteur nous replonge dans les années sombres qui ont touché la Colombie, avec un milieu qui est malheureusement fantasmé par bon nombre de personnes via les séries Netflix et autres musiques urbaines qui, on va dire, angélifient et mettent en valeur ce drame qui a touché ce pays. Donc là, on retombe plus dans la réalité et dans la dure réalité qui est mise en valeur dans ce bouquin. Donc, sans plus attendre, j'arrête de vous spoil et je vous souhaite une belle écoute. Salut Victor, comment vas-tu ?
Salut Rafik, ça va et toi ?
Bah très bien, merci. On te reçoit aujourd'hui pour un numéro du podcast Livre de Foot qui est dédié à ton petit bébé, la Narcos League, Argent sale et football colombien des années 70 à nos jours, publié aux éditions L'Armatan. Donc, est-ce que tu peux nous présenter, enfin, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter sommairement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas aujourd'hui ?
Sommairement, donc, je suis un journaliste, j'ai 28 ans. Le bouquin dont on va parler aujourd'hui, je l'ai écrit à 25 ans. J'ai fait une école de journalisme à Nice, ensuite j'ai bossé à Barcelone. De Barcelone, choc thermique, je suis revenu bosser à Vesoul, dans ma Franche-Comté natale, ensuite Besançon, ensuite je suis parti en Colombie et je suis revenu, et maintenant ça fait deux ans et demi que je suis au Havre. Voilà. À la base, j'ai une formation journaliste sportif. Mais j'aime bien toucher un peu à tout, comme peut-être que tu as pu le voir dans le bouquin. J'aime bien parler à la fois de sport, de foot, mais aussi raconter des histoires, la société, etc. quoi.
Très bien, oui, on voit que ça, on va dire que le sport, c'est une porte d'entrée sur d'autres univers qui sont intéressants et qui méritent une attention particulière.
Ouais, exactement, c'est ça, c'est exactement le terme que j'utilise en plus d'habitude, c'est vraiment la porte d'entrée pour arriver dans un monde beaucoup plus vaste, mais disons que si j'avais parlé directement, je pense, de trafic de drogue en Colombie, etc., y aurait peut-être beaucoup moins de monde que ça aurait intéressé, et en plus, il faut dire que l'histoire du mélange entre le foot et le trafic de drogue en Colombie est vraiment particulier. Il y a vraiment une sphère particulière, une saveur particulière, même s'il laisse souvent un arrière-goût au fond de la bouche. Mais il y a quand même quelque chose en plus par rapport aux histoires de trafic de drogue qu'on connaît quand on a ce qu'on connaît tous en France, par rapport aux films, aux reportages et aux séries qu'on a vues, quoi.
Et du coup, là, sur ce bouquin, tu as dit il y a quelques minutes, tu as commencé son écriture, enfin tu l'as même, tu m'as dit il y a combien de temps que tu avais terminé le bouquin et que tu l'avais écrit plutôt ?
J'ai dû finir l'écriture début 2021, quelque chose comme ça.
D'accord, ok. Et du coup, entre le T0 où tu as commencé l'écriture jusqu'à la fin du manuscrit et trouver l'éditeur, est-ce que tu peux nous décrire un peu les coulisses de l'écrivain et de l'aventure littéraire, pardon.
L'écriture, en fait, comme j'étais en Colombie, donc je suis arrivé fin 2019, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire sur ce sujet-là. Donc début 2020, j'ai commencé à faire mes investigations, mes premières interviews et tout. D'ailleurs, c'était un peu décousu. Si c'était à refaire, j'aurais pas fait ça dans le même sens. Là, j'ai fait investigation, interview, j'ai tout mélangé, alors que j'aurais dû d'abord me documenter pour ensuite faire mes interviews. Si jamais il y en a qui sont en train d'écrire des bouquins, qui écoutent ce podcast, c'est le conseil que je peux vous donner. Et ensuite, on va dire que, comme beaucoup de monde, pendant le Covid, je me suis mis à écrire un bouquin. Sauf que moi, le bouquin, je l'avais commencé avant. Tu sais, il y a beaucoup d'histoires de gens pendant le Covid. Ils se sont dit, vas-y, j'ai rien à faire, je suis chez moi, j'ai du temps, je vais me mettre à écrire un bouquin. Et d'ailleurs, les maisons d'édition, elles étaient complètement prises d'assaut par les demandes de manuscrits fin 2020, début 2021. Et donc, moi, je fais partie de ceux-là. Donc, quand j'ai contacté la maison d'édition, on va dire que je croyais avoir fini mon bouquin, mais j'avais 90% de ce qui est publié aujourd'hui. Il me restait encore quelques interviews à faire, quelques retouches pour rendre l'histoire plus compréhensible, qu'on comprenne bien quel personnage, parce que pour moi, c'était très clair, mais un Français qui va lire ça, avec beaucoup de noms qui se ressemblent, qui reviennent, qui sont à la page 10 et qui sont à la page 27. Il faut se souvenir qu'à la page 27, qui était ce gars-là, tu vois. Donc, j'ai fait un gros travail là-dessus d'explication, parce que c'était peut-être un peu compliqué à certains moments sur certains chapitres. Et donc après, une fois que j'avais les 90%, je me suis mis à chercher un éditeur. Et là, c'était très, très, très compliqué. Parce que j'en avais un qui était intéressé et au final ça s'est pas fait sans que je sache trop pourquoi. J'ai envoyé des manuscrits de partout, tous les gros éditeurs, et en général on me disait quand j'avais la chance d'avoir une réponse, c'était le sujet est bien, mais c'est trop un sujet de niche, ça va pas être assez vendeur, ça va pas être assez intéressant, alors que tous les gens avec qui je parlais du sujet, ils étaient là, waouh, mais c'est hyper intéressant, ils avaient trop hâte de le lire. Donc je comprenais, j'étais un peu perdu par rapport à ça. Et au final, il y a l'Armatan qui m'envoie un mail qui me dit « Bon, du coup, vous voulez le faire, ce bouquin, avec nous ou pas ?»
Ah oui, d'accord, coup de pression.
comment ça, vous voulez le faire Et en fait, ils avaient envoyé un mail, mais je crois à la mauvaise adresse, ou en fait, le mail s'était perdu.
D'accord.
Et moi, il faut savoir que pendant un moment, j'étais vraiment en galère, quoi. Où je me suis dit, vas-y, je vais le sortir en auto-édition ou gratuit sur Internet. Franchement, je savais plus quoi faire.
D'accord.
Et quand ils m'ont envoyé ça, je me souviens, j'étais en période où je dormais plus de la nuit et tout. Et quand ils m'ont envoyé ce mail, dès le lendemain, je dormais nickel. Ça a débloqué quelque chose complètement. Après, tout s'est fait naturellement, assez vite. Il n'y avait pas grand-chose à retoucher. Après, ça a été fait assez rapidement. Mais pour trouver l'éditeur, faut savoir quand on se lance dans un bouquin que c'est vraiment pas évident, quoi. Surtout quand on est comme moi, qu'on n'a pas forcément de nom, je suis pas connu, je suis personne, le sujet c'est vrai qu'il est particulier, il est pas rattaché à la France, donc c'était ça qui était le plus dur en fait, parce que l'écriture du bouquin, ça m'a tellement passionné que c'était facile. Moi, je suis quelqu'un d'hyper passionné. Et quand il y a un sujet comme ça qui me branche dès le début, le Covid, quand on avait le droit de ressortir, j'étais là, non, mais c'est bon, en fait, vas-y.
Moi, je suis bien.
J'ai des livres à lire encore, tu vois. Des interviews à faire. Donc, je me suis vraiment mis la tête à fond dedans. Et c'était que du kiff, en fait.
Non, mais en tout cas, le plaisir que tu as pris à écrire, on le ressent quand on lit le bouquin. Et à titre perso, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ton bouquin. Ce que tu décrivais il y a quelques minutes sur peut-être la difficulté à se retrouver dans le panorama de personnages et tout ça, franchement, on tombe pas dans cet écueil-là et on arrive à retrouver tous les personnages qui vont bien, c'est assez bien agencé, c'est fil conducteur parfait. Enfin, franchement, pour moi, c'est une très belle surprise et on apprend énormément de choses. Donc c'est pour ça que je voulais et j'ai un peu insisté auprès de toi pour pouvoir enregistrer ce numéro, parce que je pense que c'est un livre qui mérite une belle exposition et qui soit découvert par le plus grand nombre.
Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir à entendre. Et ouais, il y a un moment, tu sais, quand tu fais le bouquin, que tout le monde te dit ouais bof, tu te dis bah, peut-être que c'était de la merde en fait, t'sais, peut-être que c'est juste pas bon ce que j'ai fait. J'en discutais avec des potes, eux ils l'avaient pas lu. Et, tu vois, ils essaient de te dire mais non, mais ils savent pas, tu vois. Toi, puis même toi, tu sais plus quand t'as la tête dedans, tu sais plus si ce que t'as fait c'est bon. Ou alors des fois, je me dis, mais c'est vrai qu'en fait ce que j'ai écrit c'était pas bon. Et du coup, maintenant qu'il est sorti, d'avoir des retours comme ce que tu me dis là, ça fait plaisir. Ça veut dire que j'ai bien fait d'insister.
Et d'une manière un peu globale, au niveau des retours que tu as pu en avoir, que ce soit pas forcément retranscrit dans les ventes. Hein. Après, si c'est retranscrit dans les ventes, c'est un bonus et je suppose que tu vas pas cracher dessus, loin de là. Globalement, c'est quoi ? C'est plus... Je fais un petit parallèle un peu musique et rap. On est plutôt dans le rayon succès d'estime pardon, à la Nesbill. Où ça s'est bien vendu.
j'aime bien la comparaison. Purée, j'aimerais bien pouvoir me comparer à Nesbill, tiens. les ventes, après moi je sais pas vraiment ce que c'est de bien vendre ou mal vendre un bouquin aujourd'hui. Puis franchement je te dis, c'est tellement déjà une victoire d'avoir réussi à vendre, à publier ce bouquin, que les ventes j'ai pas vraiment d'œil dessus. En revanche, j'ai plutôt des bons retours de la part des gens qui l'ont lu. Bon, alors quand c'est la famille et les potes, hein, ça compte pas, hein, évidemment. Mais quand il y a des gens qui sont dans le métier, des gens qui lisent beaucoup, voilà, comme toi, des gens qui vendent des livres, qui sont soit spécialistes de foot, soit spécialistes d'Amérique latine, etc., qui me disent que j'ai fait du bon boulot, franchement, ça me fait vraiment plaisir, tu vois, ça rassure. Et il y a quelques personnes, et c'est souvent soit des Colombiens, soit des moitiés de Colombiens, soit des Français qui ont vécu en Colombie et qui prennent la cause colombienne très très à cœur, qui eux me disent « mais pourquoi tu fais encore un bouquin là-dessus qui va encore parler de Pablo Escobar, etc. » Ce que je peux comprendre au début, je peux comprendre que les Colombiens soient lassés de ça, mais... J'ai une copine qui me disait beaucoup ça au début. Je lui ai dit, lis-le, je lui ai bien expliqué que le but, c'était pas ça, c'était tout le contraire. Elle l'a lu, elle a compris où je voulais en venir. Et en fait, ce que je leur explique à chaque fois, c'est que... Et franchement, je les comprends, hein, ça peut être chiant. Ce que je comprends moins, c'est peut-être un peu plus les Français qui se mettent à défendre la Colombie comme si c'était leur pays natal. Enfin, après, on a tous les combats qu'on veut, mais tu vois ce que je veux dire. Et, oui. Et en fait, le but, c'est justement de désamorcer tous ces clichés qu'on peut avoir. Moi, j'ai plein de potes qui disent ouais, « Pablo Escobar, c'est super, charismatique. » Tu parlais de rap tout à l'heure. Quand tu écoutes trois quarts des chansons de rap, il y a des références à Pablo, ouais. Cartel de Medellín.
Le Barrio et cool. Compagnie, c'est voilà. Parti.
Il y a un moment où moi, ça me gave. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai fait ce bouquin, déjà parce que c'était voilà, hyper intéressant l'histoire autour du foot et qu'elle n'est pas du tout connue en France, en Europe et peu en Amérique latine. Et pour casser justement ce cliché, pour dire que les trafiquants de drogue, ce n'est pas des mecs cool. On parle quand même de criminels qui ont tué des gens, qui ont tué des familles gratuitement et pour notamment Pablo Escobar, on parle d'un terroriste aussi, tu vois. D'accord. On parle pas juste d'un trafiquant de drogue qui faisait du blé et qui tuait les méchants. Il tuait surtout les gentils. Et je pense qu'en dans tous ceux qui admirent Pablo Escobar, ils iraient pas admirer un terroriste qui a fait du mal en France, tu vois. Tu vas pas commencer à admirer les frères Kouachi. Après voilà, les comparaisons, elles sont ce qu'elles sont, mais après, avec des pincettes, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a beaucoup.
Ah, mais clairement, de toute façon, quand tu t'en prends à un innocent, tout le monde est entre guillemets dans le même seau entre guillemets, tu vois.
C'est ça. Mais je pense que les gens ont l'impression que comme ça se passe, en fait, ils ont entendu la version romancée avant d'entendre la vraie histoire. Du coup, ils croient que ce qui s'est passé en Colombie, cette histoire de guerre des cartels, tu sais, c'est pas réel. Ils prennent ça un peu comme déjà c'est trop loin. Il y a l'histoire du mort kilomètre, évidemment. Mais il y a.
Côté Netflix aussi, oui.
Ouais, voilà, c'est ça. En fait, à travers Netflix, à travers le film Barry Seal, moi j'adore ce film, mais il faut faire attention à ce qu'il racontait aussi. enfin, tous les trucs que tu peux entendre, ça t'a romancé une histoire où t'as l'impression que du coup c'est pas vrai, alors que c'est... si, vraiment en fait. Et il y a vraiment des gens qui sont morts. Et franchement, moi, quand je suis allé au contact là-bas, je me suis dit, mais bordel, comment je vais raconter cette histoire? Comment je vais réussir à parler de ça? Parce que moi, j'ai à cœur de garder un style qui m'est propre, où j'aime bien mettre, tu sais, un style un peu SoFoot, où j'aime bien prendre des exemples décalés, mettre un peu d'humour, etc. Et là, j'ai abandonné toute vanne, parce que c'est pas possible, en fait.
Ouais, clairement.
J'aurais eu l'impression de me moquer de la mort d'un proche, tu vois, les Colombiens, j'étais hyper proche d'eux pendant tout le temps où je suis resté là-bas. Et je me voyais pas faire des vannes sur, ou prendre un peu de légèreté sur des trucs qu'on fait autant de mal au pays, à des familles, etc. Mais quand j'étais ici, j'étais comme tout le monde où, ben, ouais, t'as de la distance, tu te rends pas forcément compte, tu fais pas trop attention aux mots que t'emploies. Enfin, c'est presque pas très important, tu vois. Alors que c'est une série de crimes immense, quoi. Mais c'est justement ça que j'ai essayé de retranscrire dans le bouquin. Et que tout le monde ne comprend pas, surtout les Colombiens, justement, qui ont été touchés par ça. Ils se disent, vas-y, il va encore remuer le couteau dans la plaie. Alors que non, justement, j'essaie de l'enlever pour que ça cicatrise et qu'en fait, on soit tous au courant de ce qui s'est passé, qu'on arrête de dire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Puis c'est une sorte aussi, c'est une manière de rendre hommage aussi à toutes ces victimes et tout de leur fait, dire, ouais. Ben voilà, elles sont, c'est pas une mort cool, entre guillemets, quoi. C'est des vrais drames qui ont touché toute une patrie. Et l'année 89, compliqué, quoi. Tu nous en toucheras peut-être un mot plus tard sur cette année noire là. Ouais, et c'est assez compliqué, quoi.
Ouais, non. Okay. L'année 89, je sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite.
Vas-y, bah, on fait tout de suite comme ça.
Ok, bah, l'année 89, elle est surnommée l'année de l'horreur. Et, alors déjà parce que évidemment le pays, surtout Medellin et Cali, et encore plus Medellin évidemment, est totalement ravagé par la guerre des cartels et des explosions aux voitures piégées dans tous les sens, des meurtres, des guerres de gangs, etc. Mais au final, c'est même pas la plus meurtrière qu'a connue la Colombie, parce que la pire, c'est soit 90, soit 91. J'ai un petit trou maintenant, comme ça je dirais que c'était 91, mais je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, voilà, on arrive dans le pic du nombre de morts qu'il y a en Colombie, et surtout du nombre d'homicides qu'il y a en Colombie, parce que ouais, c'était évidemment pas des morts dues au Covid, hein, c'était des morts très violentes à chaque fois. Et c'est l'année où notamment Pablo Escobar fait exploser un avion avec plus de 100 innocents dedans, parce qu'il pensait qu'il y avait le futur président de la République dedans. Il me semble que c'est 89, ça. En tout cas, c'est l'année où il fait assassiner un candidat, Luis Carlos Galán, qui est président candidat à la présidence de la Colombie, et il est à 70% dans les sondages. Il est fermement anti-narcos, pour l'extradition, et donc c'est le principal ennemi de Pablo Escobar à ce moment-là, au-delà du cartel de Cali. C'est lui l'ennemi public numéro un, et quand il a vu qu'il était à deux doigts, l'ennemi du cartel de Medellin en tout cas, numéro un, quand il a vu qu'il était à deux doigts d'arriver à la présidence, il l'a fait assassiner. Et ça, les Colombiens, autant jusque-là, ils ont pardonné beaucoup de choses à Pablo Escobar, ou en tout cas, ils ont fermé les yeux sur beaucoup de choses, mais ça ils le pardonneront jamais, encore aujourd'hui. C'est un des plus gros drames politiques de l'histoire récente de la Colombie. Et il y a quand même une mort positive, si on peut dire ça comme ça, dans cette année-là. C'est la mort de El Mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, qui était le deuxième narcoterroriste du pays avec Pablo Escobar. L'État voulait éliminer Pablo Escobar et El Mexicano, parce que c'était les deux narcotrafiquants les plus puissants du pays, les plus dangereux, ceux qui faisaient le plus de morts, les plus sanguinaires, et donc ils ont mené une opération contre lui, et celle qui est un peu plus connue, contre Pablo Escobar en 93. Mais tu vois, c'est marrant parce que Gonzalo Rodríguez Gacha, on n'en parle pas, En France, on n'en parle quasiment pas. On ne sait pas l'importance qu'il a eue, alors que c'était le seul mec qui pouvait regarder Pablo Escobar dans les yeux, voir le menacer, voir lui donner des ordres, tu vois. C'était le seul mec devant lequel Pablo Escobar pouvait avoir peur. Il n'avait pas peur du cartel de Cali, il n'avait pas peur de son cousin Gustavo, il avait peur que de ce mec-là. Et on n'en parle pas, tu vois, on ne sait pas son importance. Et dans le bouquin, je consacre une bonne partie parce que c'est un des personnages les plus intéressants dans un sens, mais surtout effroyable, quoi. Il fait vraiment flipper de cruauté, ce gars-là. Et donc lui, il est mort en 89 comme des milliers et des milliers d'autres Colombiens qui sont morts par les balles, quoi.
Et du coup, quand tu commences ton enquête, c'est quand même un thème qui est très sensible. Quelles sont les grosses difficultés que tu as pu rencontrer et est-ce que tu as eu à certains moments des instants où tu t'es dit ouais, il faut peut-être pas que j'aille sur ce terrain, c'est encore un peu chaud, il faut pas que je déterre un peu trop de dossiers, quoi.
Alors ça, déjà, je me le suis dit à aucun moment parce que je savais que c'était chaud, je savais que je m'étais qu'il fallait que j'aie des bonnes bottes pour marcher sur les braises où j'allais et je savais les risques que je prenais, le sacrifice que je ferais en écrivant et en publiant ce bouquin. Ce sacrifice, c'est ne plus pouvoir retourner en Colombie. Ça, j'en étais conscient dès le début. Parce que aussi, on m'a assez très vite averti. On m'a dit, oh là, gringo, fais attention de ce que tu vas écrire, quoi, parce que ça peut être dangereux. Et ça l'est toujours. Et les journalistes et écrivains qui ont fait des révélations sur ce sujet n'habitent plus en Colombie et ils sont tous partis du pays, quoi. Et les difficultés, c'est de faire parler les acteurs. De les footballeurs, tout ça, parce qu'ils n'ont pas envie de remuer toute cette histoire, ils n'ont pas envie de revenir dedans, ils n'ont pas envie qu'on reparle de ça. Alors il y en a qui en reparlent volontiers et il y en a d'autres que ça gêne. Je prends l'exemple souvent du frère d'Andrés Escobar, Santiago. Donc Andrés Escobar, le footballeur qui a été assassiné en 1994 par des trafiquants du cartel de Medellín après la Coupe du Monde. Excellent footballeur d'ailleurs. Lui, son frère, il m'a dit ok, je veux bien qu'on discute, mais on parle pas de narcos. Il me l'a dit exactement comme ça. Donc moi j'étais un peu embêté parce que c'est con, parce que oui. C'est un peu le sujet,
c'est le thème, monsieur. Voilà, c'est le ça, thème, ouais, monsieur, c'est... en fait j'avais un peu de soucis.
C'est comme si t'interview vas-y Nesbill, vas-y on parle pas de musique. Bon bah c'est chiant, qu'est-ce de quoi on va parler alors. Donc j'ai fait parler de son frère, mais demain de narcos il veut pas parler. Ils en ont déjà trop parlé, ils en ont déjà trop entendu parler et ça les saoule un peu. Donc en général, ce que je faisais, c'est que sur une heure d'entretien, je parlais trois quarts d'heure. Et ce qui était dans tous les cas hyper, hyper intéressant, et ça m'a servi pour le bouquin et pour ma culture perso, je leur parlais du foot, de leur vision de voir les choses, etc. Et sur les 15 dernières minutes, et au fait, et je posais les questions qui m'intéressaient le plus à la fin, une fois qu'ils étaient bien mis en confiance. Donc voilà, je ne voulais pas les prendre en traître non plus.
Bah, logique. Et c'est normal. Et juste pour revenir un peu pour le joueur, paix à son âme, recontextualiser, excellent défenseur central, très élégant et qui devait signer au Milan AC, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, pour prendre la succession de Franco Baresi. Et il devait se marier aussi, c'était prévu, et il était à deux doigts de partir. En Italie, parce qu'on est en juillet, donc je ne sais plus si son contrat a été signé ou pas, mais en tout cas, il a deux doigts de monter dans l'avion, et à 27 ans, il est fauché en plein vol, comme dirait l'expression.
Oui, donc c'est assez, assez compliqué, et on a aussi d'autres exemples comme ça, pas forcément qui se terminent malheureusement par une fin aussi tragique, mais il y a aussi de grosses pressions qui se font sur le corps arbitral. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites anecdotes pour montrer un peu jusqu'où sont prêts à aller les narcos pour influer sur le sort d'une rencontre?
Ouais, bah, les arbitres, on va dire que c'est à peu près les seuls qui sont en train de, enfin, qui souffrent le plus de la pression, en fait, des narcos, parce qu'au final, tout le monde est content. Et à ce moment-là, il y a de l'argent pour les footballeurs qui, alors les footballeurs colombiens sont moins bien payés que les autres, mais ils sont mieux payés qu'avant l'arrivée des narcos quand même. Les narcotrafiquants, ils sont contents parce que ça leur fait leur joujou, ils peuvent montrer les muscles, etc. Les médias sont très contents parce que eux, ils vendent plus de contenu, ils voient des meilleurs matchs, ils vendent des meilleurs matchs, ils font des revues spécialisées, c'est super. En fait, tout le monde profite un petit peu, sauf les, enfin, il y en a d'autres évidemment qui souffrent de ça, hein, mais au niveau du foot, les arbitres, c'est ceux qui souffrent le plus parce que ils sont un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. Constamment, ils doivent essayer de bien arbitrer, mais d'un autre côté, ils reçoivent soit des menaces, soit de l'argent, soit les deux, pour siffler bien pour telle ou telle équipe, des fois pour les deux équipes à la fois. S'ils se trompent, même de bonne foi, c'est une catastrophe. Et même s'ils se trompent pas, parce qu'après, se tromper, pas se tromper. On le dit souvent, surtout maintenant avec tous les débats autour de la VAR, etc. On dit toujours, c'est une question d'appréciation. C'est un truc qu'on a martelé pendant un moment. Sauf que l'appréciation de l'arbitre et l'appréciation de Pablo Escobar ou des frères Rodriguez Orejuela, les chefs du cartel de Cali, et donc de l'América de Cali aussi, ben, elle n'est pas la même, cette appréciation. L'exemple type qui a aussi traumatisé la Colombie, et on va revenir sur l'année 1989. C'est le grand arbitre Alvaro Ortega, très réputé dans le pays, en tout cas qui, aux yeux de Pablo Escobar, se trompe en annulant un but de l'Independiente Medellín, donc le club chéri de Pablo Escobar devant l'Atlético Nacional, contrairement à ce que beaucoup croient. Donc le club chéri de Pablo Escobar qui se fait annuler un but, un joli but en plus, je crois que c'est un retourné ou un but acrobatique. Contre l'América de Cali, donc c'est le principal rival, et donc à Cali. Et au match retour, c'était la finale du championnat en plus, il me semble. Quand cet arbitre revient pour arbitrer en tant que juge de touche, se fait menacer et finit par être assassiné comme un chien en pleine rue par des sicarios du cartel de Medellín. Il savait les risques qu'il prenait, il a décidé de pas céder aux menaces et il est mort de ça. Mais ça, c'était un truc que tous les arbitres voyaient venir, les arbitres prévenaient, les arbitres avaient peur de chez eux, peur de sortir de chez eux pour aller arbitrer un match de foot. C'est totalement surréaliste et des histoires d'arbitrage, d'arbitres corrompus, d'arbitres qui disparaissent. J'en ai énuméré une partie dans le bouquin, mais j'aurais pu faire un bouquin entier là-dessus parce qu'en fait ça s'arrête pas. Et à la fin, une fois que tu en as énuméré 10, 15, en fait ça devient banal. Et quand on vient à entendre l'histoire d'un arbitre qui se fait assassiner, bah, ça devient presque la suite logique. Tu dis, bah ouais, en même temps, c'est sûr que ça devait arriver, quoi. Donc, ouais, il souffrait vraiment d'une pression insupportable, quoi. Déjà que les arbitres aujourd'hui, ça doit pas être facile pour eux parce que c'est toujours les boucs émissaires. Et quand tu es le bouc émissaire de celui qui a les armes, bah ta vie est carrément en danger, quoi.
Compliqué. Et justement, dans ton exposé de la réponse là, tu as un peu fait une micro-cartographie des clubs et des entre guillemets narcos qu'il y avait derrière. Est-ce que tu peux nous citer les clubs principaux et nous faire un peu un parallèle avec des équivalents en Europe pour qu'on se rende compte du poids que ça a le club dans le championnat national? Je ne sais pas si je suis clair dans la question.
Ouais, je vois, je vois. Après, c'est pas évident de faire des parallèles en Europe parce que déjà, on est sur une époque très très différente. Et puis, bon, j'ai voulu faire deux trois parallèles au début dans le bouquin et je les ai enlevés parce que parler de propriétaires de clubs d'Europe, même s'ils gèrent pas bien leur club, etc. Et faire un parallèle avec des narcotrafiquants qui ont du sang sur les mains, j'ai toujours trouvé que c'était un peu compliqué. Mais par exemple, l'América de Cali, Alors évidemment, tous ceux qui nous écoutent, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est j'essaie de faire ça grossièrement. Hein.
Mais après, c'est sur l'échelle de la de la popularité que je fais ça. Je fais, c'est pas ça.
Ah oui, d'accord.
Sur la popularité. Sur la popularité. Hein. On va pas rentrer dans telle présidence. Hein, c'est l'équivalent.
Oui, non.
Narco, voilà, c'est, voilà, faut pas tomber là-dedans.
Quoi. Par rapport à l'América de Cali, ce qui est intéressant, je trouve qu'il y a un petit parallèle à faire avec des clubs comme City ou le PSG, Manchester City ou le PSG. C'est-à-dire que avant l'América de Cali, c'était un petit club, tu vois. C'était, alors sans dire que le PSG City c'était des petits clubs, mais ils ne gagnaient pas, ils étaient toujours dans l'ombre des autres. Ils n'avaient jamais gagné de titre avant l'arrivée en 78-79 de Miguel Rodríguez Orejuela, donc un des chefs du cartel de Cali. Et une fois que ce mec est arrivé, il a commencé à acheter les meilleurs joueurs du continent. Il a failli faire venir Diego Armando Maradona.
Ah, juste ça.
Et Maradona lui avait donné son accord avant que son agent,
l'impresario,
il avait déjà, il avait déjà un accord avec, enfin, il avait déjà signé quelque chose avec le Barça. Et donc ouais, là-dessus, il y a peut-être un petit parallèle à faire avec le PSG ou City qui avant avait du mal à gagner, et depuis, l'América de Cali, ils ont atteint 3 fois la finale de la Copa Libertadores sans jamais gagner. Ça s'est joué à un cheveu plus d'une fois. Et ils ont gagné quasiment tous les championnats dans les années 80. Ils ont dû en gagner 6 ou 7 sur la décennie. Et donc voilà, ils ont été très, très dépendants de l'argent de leurs investisseurs. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme parallèle ? C'est un peu compliqué. J'avais jamais trop réfléchi à faire des parallèles comme ça avec les clubs européens français. On pourrait peut-être vite fait parler de l'Atlético Nacional comme de l'OM, parce que c'était déjà un grand club qui gagnait déjà, mais ils ont eu un coup de pouce de la part d'un nouvel, enfin l'Atlético Nacional a eu un coup de pouce d'Escobar. Et l'OM, on va dire, de Bernard Tapie, avec un petit coup de pouce illégal, on va dire, dans les deux cas. Mais c'est un peu glissant, je trouve, de faire comparaison là. C'est pas évident.
D'accord. Ok, très bien. Et du coup, au niveau des aujourd'hui, le football colombien, est-ce qu'il est quand même aussi toujours, est-ce qu'il est toujours gangréné, ou la situation a été assainie et il y a eu un grand ménage de fait, et est-ce que tu décris ça n'existe plus?
Ce que je décris dans le bouquin, ouais, ça n'existe plus comme tel. Disons qu'avec la mort del Mexicano, de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Pablo Escobar en 93, et l'enfermement, l'emprisonnement des deux frères Rodríguez Orejuela en 94 et 95. Disons que le trafic de drogue en Colombie a commencé à imploser, à se séparer en plein de petits groupes. Les grosses têtes les plus puissantes ont disparu, et donc c'était plus facile pour l'État, on va dire, de faire un petit peu son ménage, sachant que vu que ça séparait en petits groupes, chacun voulait avoir le pouvoir, et donc personne ne l'avait totalement, parce qu'une fois qu'il y avait une tête qui repoussait, il y en avait une autre qui était coupée 2 semaines plus tard. Donc c'est comme ça que déjà le trafic de drogue a commencé à diminuer en Colombie, et donc ça a permis à l'État de reprendre un petit peu le dessus, en donnant un coup de balai là-dessus, en essayant de faire de nouvelles législations pour plus de transparence dans l'argent qui entre dans les clubs. Et c'est comme ça. En plus, il y a eu la liste Clinton qui interdisait en gros à toutes les entités, les personnes physiques ou morales qui étaient dessus, de pouvoir faire du business avec les États-Unis. Donc en gros, si un club de foot est dessus, comme c'était le cas d'Envigado ou de l'América de Cali, tu peux plus avoir de sponsors qui ont un lien avec les États-Unis, donc c'est quand même très compliqué. Tu peux plus faire de business de quelque manière que ce soit avec les États-Unis. Et donc, ils ont eu leur compte gelé, etc. Donc là, tu es obligé de t'assainir pour pouvoir sortir de cette liste-là. Ça a pas mal aidé aussi, ça. Et donc, le foot colombien s'est assaini et le trafic de drogue ont changé. En fait, c'est, voilà, pour moi, c'est deux choses. Et les trafiquants de drogue actuels n'ont plus du tout la vocation, comme ceux d'il y a 30 ans, de se montrer, de faire en sorte que tout le monde sache à quel point ils sont puissants, à quel point ils sont forts, à quel point ils sont riches. Au contraire, en fait, ils veulent se cacher, ils font plus des... ils sont plus dans les crypto-monnaies, ils essaient plus de faire du blanchiment d'argent à travers les clubs de foot. Alors avant, les clubs de foot servaient au blanchiment d'argent, mais c'était pas déjà c'était pas du tout le principal objectif. Et c'était minime parce qu'ils gagnaient tellement d'argent sale qu'ils en blanchissaient, je sais pas, allez, 10% à tout péter, quoi. Donc ouais, les trafiquants de drogue ont changé et ils sont plus du tout dans les gros clubs de première division. Ils sont plus dans les petits, à blanchir leur argent, à faire leurs petites affaires dans leur coin, mais gagner un championnat, gagner la Copa Libertadores ou faire venir Neymar, ils s'en foutent, les gars. C'est plus du tout leur objectif. Leur objectif, c'est de faire du blé et de se tenir loin des unes des journaux et des caméras, quoi. Ce qui était totalement le contraire avant. Un exemple avec Pablo Escobar qui donnait des interviews, qui voulait rentrer en politique, etc. Maintenant, c'est hors de question, quoi.
Et justement, au niveau du foot colombien, aujourd'hui, au niveau de l'échiquier de l'Amérique du Sud, il se place comment ?
C'est assez faible, hein, quand même. T'as le Brésil qui est le plus fort et qui va continuer à l'être parce que c'est ceux qui ont le plus de revenus, les revenus les plus forts en ce moment et qui vont continuer à les avoir. Donc je pense qu'on va avoir encore pas mal de vainqueurs de Copa Libertadores ou en tout cas de finalistes, là, la finale c'est bientôt, brésiliens. Ensuite t'as le foot argentin, évidemment, de toute façon historiquement on le sait, c'est toujours les deux qui sont au-dessus. Ensuite, tu peux avoir uruguayen et alors il y a le mexicain qui est pas mal, le championnat mexicain qui est bon aussi, peut-être au même niveau que l'argentin ou un petit cran en dessous. Et ensuite, enfin selon moi, hein, j'aime bien regarder un petit peu tout, donc je suis pas expert sur tous ces championnats-là, mais la Colombie, ça a beaucoup chuté. Et franchement, pour être allé voir un classico de Medellín au stade, le spectacle est beaucoup plus dans les tribunes que sur le terrain, quoi. Enfin, techniquement, c'est assez faible. Il y a beaucoup de coups qui sont donnés. Les joueurs sont un peu moins sérieux. Les terrains sont moins bons. Enfin, il y a un peu tout qui est moins bien, mais c'est normal parce qu'en fait, si un joueur est clos en Argentine, en Colombie, pardon, il va partir soit au Brésil, soit en Argentine, soit en MLS, soit au Mexique, soit en Europe, dans le meilleur des cas pour lui. Donc, dès qu'ils éclosent, ils partent assez vite vers l'étranger et donc la Colombie a du mal à garder ses meilleurs joueurs, ce qui est un peu logique vu que, enfin, et du coup tu vois les serpents qui se mordent la queue, quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à garder leurs meilleurs joueurs, du coup le championnat est moins faible, du coup ils arrivent moins à avoir d'argent, du coup ils ont moins d'argent pour garder leurs meilleurs joueurs, etc. Enfin, on connaît un petit peu tout ce cercle là et c'est pas le championnat d'Amérique latine que je conseillerais si jamais tu veux regarder du beau foot, quoi. C'est clair, ça a beaucoup chuté par rapport à l'époque où quand il y avait les Narcos, c'était l'un des meilleurs championnats, peut-être le troisième meilleur championnat du continent, quoi. Là, il n'y a plus rien à voir.
Et justement, là, tu parlais un peu de jeunes talents. Moi, dans le bouquin, il y a un personnage entre guillemets qui a retenu mon attention, c'est Gustavo Upegui. Ouais. Est-ce que tu peux le présenter rapidement à celles et ceux qui vont écouter l'épisode, parce que j'en ai compris que c'était le pionnier du trading, et si tu peux donner un peu les noms des joueurs connus et reconnus qu'il ouais. a fait éclore, ça montrait un peu l'étendue du talent du mec et le côté visionnaire qu'il avait, quoi.
Ouais, Gustavo Upegui, tu vois, c'est la première interview où on me parle de lui, et ça me fait plaisir parce que c'est pour moi le personnage qui m'a le plus intéressé, en fait, justement parce qu'il n'est pas connu, Et parce que c'est aussi celui l'un des plus récents dans les gros personnages de ce bouquin, de cette histoire, et parce que il est vraiment troublant, ce gars, parce que à la fois c'est un dangereux criminel du cartel de Medellin et de la Oficina d'Envigado, qui est actuellement le plus grand, le plus vieux cartel de Colombie encore en activité. Et en gros, ce qu'on dit, c'est que quiconque veut dominer le trafic de drogue en Colombie doit contrôler d'une façon ou une autre la Oficina d'Envigado, c'est-à-dire l'importance de ce cartel, qui est donc à la base de la création du club d'Envigado, le FC Envigado, dont la devise, c'est la Cantera de Héroes, donc le centre de formation des héros. Parce que justement, ce gars-là a mis une espèce de politique sportive totalement différente des autres clubs du continent, du pays, pardon, où le but, c'était pas du tout de montrer les muscles et de recruter les meilleurs joueurs, mais c'était d'aller les chercher très jeunes, de les former et d'avoir des pépites. En fait, lui, c'était ça qui kiffait, que ça soit lui. Lui connaissait très bien le foot, et Guillermo Zuluaga et Elkin Correa, qui étaient deux sicarios très importants du cartel de Medellín, étaient aussi très connaisseurs du foot. Zuluaga était un très bon joueur, apparemment aussi. Et donc, alors je vais faire le tableau noir d'abord, en premier, de Gustavo Pegui. C'est un mec qui a pas hésité à torturer beaucoup de gens. C'est le mec qui était notamment en charge de ramener des animaux d'Afrique pour le zoo de Pablo Escobar dans la Hacienda Napoles. Donc il a pris beaucoup d'importance dans le cartel de Medellín quand Pablo Escobar est allé en prison. C'était lui qui s'occupait des affaires extérieures du cartel de Medellín. Et une fois que Pablo Escobar est mort, la DEA soupçonnait Gustavo Pegui d'être le nouveau chef du cartel de Medellín. Après, il faut savoir qu'une fois qu'Escobar est mort, le cartel de Medellín est un peu parti dans tous les sens, donc trouver un chef, c'était un peu compliqué. Mais en gros, ça veut dire vraiment que c'était quelqu'un de déjà très dangereux et qui avait beaucoup d'influence à Medellín. Et ensuite, pour le tableau positif, parce que j'ai trouvé quand même beaucoup de gens, à ma grande surprise, qui m'en ont parlé avec des étoiles dans les yeux, quoi. En parlant il parlait d'un sixième sens, voire d'un don pour repérer le talent chez les footballeurs. Et c'est notamment lui qui, alors là, je pense qu'il n'a pas dû faire beaucoup appel à son don, parce que c'est lui qui a repéré James Rodriguez. Sauf que c'était dans un tournoi où James Rodriguez, il finit meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur, champion du tournoi. Donc c'était peut-être pas si compliqué que ça, enfin, fallait être aveugle pour passer à travers. Mais il en a repéré d'autres, comme Juanfer Quintero. Alors après, je sais pas si c'est lui qui les a repérés personnellement, mais il y a parmi les joueurs qui sont sortis de la Oficina d'Envigado via donc cette philosophie que lui il a donné, il y a Freddy Guarín, Frank Fabra, Giovanni Moreno, tout ça, c'est des internationaux colombiens. J'en oublie certainement, hein. Je ne sais pas si tu as la liste sous les yeux pour compléter, mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup.
Bah, tu les as presque tous listés. Là. J'avais noté aussi Matteo Uribe.
Ah oui, voilà, Matteo Uribe, excellent joueur aussi. Ok. Et donc, où est-ce que j'en étais ? Oui, et donc tout le monde m'en parlait comme d'un visionnaire du foot, en fait, vraiment. Et c'est vrai que quand on voit maintenant ce qu'est devenu le foot, on peut se dire peut-être qu'il avait quand même une sacrée longueur d'avance, parce que maintenant, il y a beaucoup de clubs, surtout en France, dont le modèle économique, c'est uniquement le trading, quoi.
Oui, mais clairement, c'est ça.
Et oui. Donc lui, il tombe totalement amoureux, alors c'est pas sans que ça soit mal interprété, mais il tombe amoureux du joueur qui est James Rodriguez, donc quand il est tout gamin dans un tournoi qui s'appelait la Pony Football à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle la Baby Football. C'est un énorme tournoi de gamins à Medellín, avec les meilleures équipes du pays, de gamins de, je sais plus, 10-12 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant il y a des filles aussi. Et donc il y a beaucoup de recruteurs qui sont là pour regarder leur futur pro. Alors moi, ça me dérangeait un peu que des gamins soient mis dans ce contexte, parce que pour moi, le foot, surtout à cet âge-là, ça doit rester un jeu. Et en fait, les gamins, ils sont dans des conditions de professionnels, quoi. Ils ont les interviews à la télé, il y a des sponsors, il y a des supporters qui chantent. Enfin, c'est, C'est hallucinant, il faut payer sa place pour rentrer dans le stade. C'est un tournoi totalement hallucinant. Et donc, James Rodriguez, avec l'Academia Tolimense, parce que lui, il vient de Tolima, à la base, en Colombie, il y pète tout, clairement, avec un autre de ses coéquipiers, Pipe Pérez, je crois, quelque chose comme ça. J'espère ne pas me tromper, parce qu'il y a... Il y a un autre joueur qui a à peu près le même nom dont je parle dans le bouquin. Enfin bon, bref, il y a, avec un autre attaquant, lui il est 10, c'est son, l'autre joueur il est 9. Et en gros, il est extrêmement fort. Et Gustavo Pegui va directement voir le beau-père et la mère de James Rodriguez dans les tribunes pour leur dire, écoutez, moi, votre gamin, je le veux dans mon club. Je vais vous trouver un travail, je vais vous trouver une maison à côté du centre d'entraînement. En gros, il était prêt à tout débourser pour le faire venir. Évidemment, ils sont venus. James Rodriguez s'entraîne, il est bon, mais problème, il est un peu frêle, en fait. Physiquement, il n'est pas assez fort et il n'est pas encore prêt. Bon, en même temps, il a 14 piges. Hein. Ouais. Il n'est pas prêt à jouer avec des adultes. Donc, qu'est-ce que va faire Gustavo Pegui? Il va lui payer des hormones de croissance. Alors, dans la biographie officielle de James Rodriguez, on dit que c'est les mêmes hormones que ce qui a été donné à Messi. Mm-hmm. C'est faux. Moi, j'ai rencontré... Le coach physique de James Rodriguez à l'époque, enfin celui qui était un peu son homme à tout faire, et le médecin qui a prescrit donc ces médicaments, c'était des gélules à prendre à base de miel d'abeille et je sais plus quoi, pour lui permettre de grandir. Il a pris 3 ou 4 centimètres, je crois, de plus que ce qu'il aurait dû grandir, que ce qui était prévu. Donc il est, une fois qu'il était assez grand pour jouer avec les adultes, à ce moment-là il a 16 ans, je crois. Le coach de l'équipe première, Hugo Castagno, avait encore peur de faire jouer James Rodriguez. Il le sentait pas prêt. Du coup, Gustavo Pegui, qui lui était fan de Rodriguez, le fait oblige Hugo Castagno à le faire jouer. Donc il rentre à 20 minutes de la fin, il met un petit pont, une frappe sur le poteau, il impressionne tout le monde et il sortira plus jamais de l'équipe première de l'Envigado jusqu'à partir à Banfield en Argentine, ensuite FC Porto et ensuite Monaco, Real Madrid, le but magnifique face à l'Uruguay en Coupe du Monde, toute la trajectoire qu'on connaît. Mais donc cette trajectoire aurait peut-être pas été la même sans un trafiquant de drogue de Colombie qui, oui, apparemment, il connaissait tout sur tout le monde. Enfin, il connaissait les dates de naissance et les noms de tous les joueurs qui étaient au club. Il passait sa journée à les regarder sur le terrain d'entraînement au balcon d'une petite maison qu'il y avait à côté du terrain d'entraînement. Enfin, c'était un mordu de football et visiblement un grand, grand connaisseur de ballon rond. Ouais.
Ouais, il aurait pu même contribuer, puisqu'il y a... Il y a le fameux FM24 là, qui va sortir. du coup, il aurait pu faire le scout pour la Colombie là-dessus, pour alimenter un peu les bases de données. Voilà. Non, mais c'est ce qui est fou aussi, dans ce que tu décris et ce qu'on lit dans son passage, moi, ce qui m'a frappé, c'est que en fait, le mec, déjà, il a un temps d'avance, comme tu le dis, et deux, il utilise tous les moyens qu'aujourd'hui les clubs pro en Europe utilisent. Et vas-y que je te mets bien toute la famille pour m'assurer entre guillemets de pouvoir l'attirer dans mes filets. C'est comme tu dis, tableau noir, mais quand tu regardes, c'est pas tout noir, tout blanc. La partie éclairée elle est bonne à prendre et ce qui fait, sur la partie footballistique du moins, c'est plus que positif.
Ouais, c'est clair que il a clairement contribué à faire d'Envigado un club. Bon, c'est pas un grand club en Colombie, hein, ça reste un petit club actuellement. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il lutte pour le maintien. Ça sera toujours un petit club qui sera dans l'ombre des deux mastodontes de Medellín. Mais il a créé une vraie identité à Envigado, mais il faut jamais oublier qu'il n'aurait jamais fait ça sans tout l'argent sale qu'il a accumulé à base de trafic de drogue, de traite d'êtres humains, de sicariata, de tout ce que tu veux, quoi. Donc oui, clairement, si on regarde que le connaisseur de foot, il a fait des choses fantastiques, mais je pense que l'un n'est jamais à dissocier de l'autre. Et c'était aussi, une fois qu'il pensait plus au foot, c'était aussi un homme vraiment monstrueux, mais qui reste admiré par beaucoup. Et beaucoup à qui j'ai parlé à Envigado, ça doit être le club sur lequel j'ai le plus enquêté. beaucoup me disent, moi, toutes ces histoires de trafic de drogue, de ce que tu veux, de crimes, d'organisations criminelles, je veux pas savoir, on voulait pas savoir, on voulait pas se mêler de ça, quoi. Mmh. Et lui, enfin, ils étaient vraiment juste, il avait vraiment deux visages, quoi. Le sourire du connaisseur de foot et on va dire le rictus plus maléfique du trafic en drogue. Mais c'est pour ça qu'il m'a beaucoup intéressé. C'est parce que vraiment, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, clairement,
c'est assez intéressant.
Ça doit être aussi un peu troublant, en fait, d'avoir un genre de personnage comme ça qui est limite schizo, quoi. D'un côté, tout va bien et super bon, gros ponte, limite président, directeur sportif et tout du club. Ouais. Et de l'autre côté, dès que le match est terminé, on sort du terrain, ça devient un criminel sanguinaire, comme tu le dis, c'est troublant.
Ouais, c'est ça. Mais au final, il y en a beaucoup des trafiquants en drogue qui s'y connaissent quand même en foot. Hein. Alors, Pablo Escobar, il aimait ça, on le sait, il avait un terrain, il invitait des joueurs comme Maradona et Higuita à venir jouer sur son terrain, dans sa prison, la cathédrale. Mais il y a quand même pas mal de trafiquants comme ça, plus ou moins grands, qui aimaient le foot et qui s'y connaissaient, hein. Par exemple, Miguel Rodriguez Orejuela, donc le chef du cartel de Cali et de l'América, lui, il était aussi apparemment assez connaisseur de foot. Et alors, il était pas très très bavard et très sociable, on va dire, mais quand il s'agissait de parler de ballon, etc. Il savait de quoi il parlait aussi, quoi. Donc ouais, les mecs étaient quand même des passionnés pour beaucoup de foot. Et, tu vois, lui, il connaissait un joueur du fin fond du Paraguay, Miguel, il le connaissait, quoi. Donc ils avaient, ouais, c'est ça, leur côté maléfique, leur côté cruel, mais au final, ils le voyaient surtout comme une manière de, voilà, de faire de l'argent, d'atteindre le pouvoir, etc. Et à côté, ils avaient quand même leur petite passion, quoi.
Ouais, nickel. Et du coup, là, tout à l'heure, on a parlé, je reviens sur une question que j'ai oublié de te poser, et ça permettra peut-être aussi de conclure l'échange. C'était, donc là, on a parlé un peu des mauvais souvenirs et un peu des choses qui t'ont pas, dans l'écriture, qui t'ont pas marqué positivement, et des difficultés que tu as dû surmonter. Et quels sont pour toi les ou le moment que tu as aimé positivement et qui t'a marqué dans l'écriture du bouquin positivement, hormis le coup de fil de l'armatan qui dit hey, Coco, on y va ou pas, ouais. Tu vois.
Déjà, il faut savoir un truc. Je voulais te le dire tout à l'heure et j'ai zappé. C'est que j'ai bossé un peu sur des clubs au Costa Rica. Et en fait, je crois qu'en Amérique latine, c'est beaucoup plus facile de se faire un réseau qu'en France. Et au bout de 3 mois, là, allez, 3 mois, 6 mois, j'avais les numéros de tous les plus grands joueurs colombiens, de René Higuita, de Carlos Valderrama, de Leonel Alvarez, de Pacho Maturana, toutes les plus grosses figures du foot colombien, je les avais rapidement. Et pareil, quand j'ai bossé au Costa Rica, alors pour un article que je n'ai pas réussi à vendre, malheureusement, j'en parlerai peut-être bientôt sur Twitter, mais pareil, j'ai réussi à avoir les plus gros entraîneurs, les joueurs les plus importants, etc., hyper facilement, parce que alors, je connais moins la culture costaricienne, mais en Colombie, c'est simple, en fait. Vas-y, on discute. Tu vois, le numéro d'Higuita, je l'ai eu grâce à un taxi. Le taxi, je lui parle de mon bouquin, je lui dis, ah bah tiens, j'aimerais bien avoir le numéro d'Higuita. Il me dit, ah bah attends, j'ai une pote qui travaille à la mairie, je vais te filer son numéro, et elle pourra te filer le numéro d'Higuita. La nana, je lui dis bonjour, machin, elle m'a envoyé le numéro d'Higuita tout de suite. Enfin, c'est impensable en France. En France, tu veux le numéro de quelqu'un, c'est attends, qu'est-ce que tu lui veux, limite faut faire une interview préalable, et le gars, bon, bah, je vais lui demander pourquoi tu veux lui parler, et s'il veut bien que je te donne le numéro, machin. Il y en a certains, c'est vraiment très très compliqué, très très méfiant. Donc ça, j'étais agréablement surpris, où je demandais un numéro, je l'avais, quoi. ou en tout cas on m'aidait à la voir. C'était et ça c'était top parce que vraiment les contacts je les ai eus assez rapidement et assez vite. Si c'était dans aussi galère qu'en France, j'aurais mis beaucoup plus de temps à écrire ce bouquin que ce que j'ai eu. Tu vois, j'ai même réussi à avoir le contact. Alors il m'a jamais répondu, mais j'ai eu le contact de César Gaviria, qui est l'ancien président de la Colombie, quoi.
Ouais, non, mais c'est...
C'est vraiment, c'était hallucinant. Les gens te les donnent facilement. Et je pense qu'ils ont raison au final. Il n'y a pas de,
y a rien
pas de raison de craindre quoi que ce soit. Enfin, on est trop craintif en France. Là-bas, c'est tout de suite beaucoup plus naturel.
Et c'est encore ça plus... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais faire une petite digression parce qu'on a partagé une aventure commune qui était Ultimo Diez. Et quand on sollicitait des clubs, et ne serait-ce que des fois des journalistes, et c'est là où ça me rend ouf, ça. C'est, y a des fois, juste pour échanger avec des journalistes, ils te laissent en vue, ils ne te répondent même pas. Et c'est déconcertant. Et par contre, quand tu vas démarcher un service presse ou un service com à l'étranger, le mec, soit il te facilite, à 99% des cas, il va te dire, bah, ok, vas-y, bon, ce joueur, on ne peut pas te le passer, par contre, tu peux aller avec telle et telle personne. Ou il te répond. Je pense que c'est... Après, je me trompe. Peut-être, hein, mais dans toutes les sollicitations que j'ai pu faire, il n'y a qu'en France où j'ai vu soit des journalistes qui se prenaient pour laisse tomber, c'est pas des journalistes, c'est Mbappé qui est en face de toi, tu vois, soit des clubs qui mettent des verrous. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, tu as la connexion avec le joueur et que le joueur, quand il repasse en interne et qu'il dit Coco, tu n'as pas eu un. Quelqu'un qui a essayé de me joindre et tout, pourquoi tu bloques? Et là, bizarrement, il retrouve ton numéro et il te répond. Tu vois. Le système en France, il est sclérosé et c'est compliqué. Donc, si on pourrait un peu, on va dire, ouvrir un peu les vannes, parce que ça permettra à pas mal de personnes de proposer du contenu. Quand on voit malheureusement des fois ce qui est proposé, ça permettrait d'avoir une belle bouffée d'oxygène. Désolé, je t'ai coupé dans ton élan.
Non, mais, mais voilà. Non, mais t'as bien fait parce qu'en plus, ça rejoint totalement le deuxième, le point vraiment qui m'a le plus plu. Pour moi, c'est une question de mentalité en fait. Alors, j'ai pas envie de cracher sur la France, etc., parce qu'on a quand même un beau pays, etc. Mais la mentalité colombienne, elle est incomparable. Je te jure, vraiment. Moi, c'est ça. En fait, les contacts que je me suis fait, il y en a qui sont devenus très vite des amis, tu vois. Dans le bouquin, je fais parler très rapidement l'un des premiers contacts que j'ai eu qui s'appelle Camilo Ceballos. Je venais d'arriver en Colombie. J'avais un espagnol approximatif. Enfin, tu vois, je savais parler, je savais comprendre, mais je faisais des erreurs de conjugaison, de subjonctif, machin. Le mec m'a invité chez lui. Il y avait son enfant handicapé à côté de moi pendant qu'on faisait l'interview. Il m'a invité à manger après l'interview. Enfin, où tu vas voir ça en France? Tu vois, c'est un ancien pro d'Envigado. Où tu vas voir ça? C'est impossible, en fait. Le mec qui a joué en première division, qui va recevoir comme ça un journaliste étranger qui ne connaît pas, etc., c'est impossible. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de très bonnes connexions comme ça avec les gens que j'ai pu rencontrer. Alors, il y en avait, bon, c'était des connards, évidemment, comme partout. Mais ceux-là, c'était en général ceux que j'avais au téléphone. Ceux que j'ai rencontrés, très souvent, tu vois, je peux encore leur envoyer des messages. Ils m'ont félicité quand le bouquin est sorti. Ils prennent des nouvelles. Quand est-ce qu'il va sortir en Colombie, machin, on veut le voir, etc. Enfin, tu vois, beaucoup plus de bienveillance, etc. Et moins de... Je sais pas de concurrence. Alors encore une fois, hein, je généralise, je dis pas que tous les Français sont comme ça, etc. Parce qu'il y a d'autres parties de l'Europe où ça l'est aussi. Mais la Colombie, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment des gens généreux, qui ont leur travers aussi sous certains aspects évidemment, mais vraiment des gens généreux. Je te prends un dernier exemple qui a rien à voir avec mon enquête, mais pendant le Covid, il y a un mec qui toque à ma porte. Un SDF, tu vois, qui me demande à bouffer. Je me dis, j'ai jamais vu ça de ma vie, qu'est-ce qu'il me veut lui? Il toque à ma fenêtre. Donc je vais lui chercher un petit truc, puis je lui donne un truc à bouffer pour qu'il se barre, tu vois. Et je reste à l'observer par la fenêtre, je vois qu'il va à d'autres, il va faire la même chose à d'autres maisons. Je me dis, putain, il fait ça à toutes les maisons, n'empêche, il n'est pas gêné. Et en fait, les gens, ils lui donnent des plats cuisinés. Ils lui ont préparé des trucs et tout. Ouais. Ou alors, ils lui ont donné une partie de leur assiette. Et je me suis dit, putain, mais en fait, je suis quelle race de connard, moi.
Ouais, non, mais c'est ça. C'est là où putain, tu te dis, ouais, la petite claque.
Ouais, c'est ça. Je me dis, mais en fait, j'ai pas du tout ces valeurs-là, quoi. Et du coup, après, j'ai commencé à lui faire des pâtes tous les jours. Ou du pour quand il revenait, je me dis, non, mais attends, faut que je me rachète un karma, là, parce que sinon, c'est direction l'enfer tout de suite. Et pour eux, c'était juste naturel. Tu demandes ton chemin dans la rue à quelqu'un, il t'accompagne jusque là où tu veux, ou alors en tout cas sur deux pâtés de maison. Putain, mais à Paris, tu demandes ton chemin à quelqu'un, le gars il dit ouais, bah, c'est là-bas quoi. On attend même savoir où c'est.
Et encore s'il te répond, tu vois. Si...
Ouais, c'est ça. Ouais. Des fois, il continue à marcher. Ouais, je parle pas français, désolé. mais ouais, c'est ça qui m'a choqué en fait. Et de toute façon, quiconque est allé en Colombie te le dira. De toute façon, moi je recommande à tout le monde d'aller en Colombie. Quiconque est allé en Colombie te le dira, c'est les gens les plus gentils de la Terre, et peut-être même encore plus ceux de la région de Medellín qui sont vraiment adorables. Et ça tranche vraiment avec tous les trucs que je raconte dans le bouquin et tous les trucs qu'on peut voir de violence, etc. C'est hyper bizarre, c'est à la fois beaucoup de violence, mais beaucoup de gentillesse, tu vois. C'est un truc que j'arrive toujours pas à expliquer à l'heure actuelle. Je sais pas si un sociologue pourra m'expliquer. Mais ouais, c'est ça en fait, surtout la bonne expérience. C'est pour ça que je suis tombé amoureux du pays, moi.
Ouais, d'accord, bah, super. Et du coup, pour la suite, parce que ça me permettra de. Tu me fais des belles passes-dé là, sur les transitions. Ton bouquin, il va être traduit et il est en passe d'être publié en Colombie ou c'est pas envisagé ?
Alors, si, c'est envisagé, mais je vais attendre début 2024. Pour commencer à démarcher des éditeurs espagnols pour pouvoir le vendre en Amérique latine et en Espagne, en tout cas avoir une version espagnole. Parce que déjà il y a de la demande. Je sais qu'on me dit souvent, des potes journalistes, des confrères là-bas, ils me disent on aimerait bien en parler, mais en fait c'est pour le on va pas vendre en Colombie un bouquin que tu as écrit en français, les gens s'en foutent. C'est un projet que j'ai, mais pour l'instant j'ai encore démarché personne, et en fait j'attends d'avoir un certain nombre de ventes et d'interviews, de visibilité avant d'aller voir quelqu'un, parce que si j'y vais dès le début, il va me dire excuse-moi t'es qui, alors que là peut-être que s'il en a un peu entendu parler, ça va peut-être l'inciter plus précisément à investir dans la traduction du bouquin. Pour la petite anecdote, moi au début j'étais parti pour le traduire tout seul, le bouquin, parce que je suis bilingue espagnol, et quand je suis allé faire l'émission sur RMC de l'After, j'ai discuté avec Thibaut Leplat avant, qui m'a déconseillé de le faire, et il m'a dit quelque chose que je ne savais pas du tout. Apparemment c'est une règle, c'est traducteur, tu ne traduis que vers ta langue maternelle. Et c'est vrai que même en étudiant beaucoup l'espagnol, j'écrirais pas le bouquin aussi bien que l'écrira un espagnol, en fait, tu vois. Donc, je pense qu'il a raison. Et donc, voilà, j'attends de trouver un éditeur, un traducteur. Après, je sais pas trop comment ça va fonctionner pour cette deuxième partie. De toute façon, là, je fais que d'apprendre. Hein. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait, le milieu d'édition. J'ai pas été déçu. Et donc, maintenant, ouais, je vais, dans quelques mois, je vais commencer à démarcher un petit peu les éditeurs en Espagne.
Et du coup, pour la suite des événements, toi, en termes de production, hormis l'aventure colombienne et espagnole plus largement de cet ouvrage, tu as d'autres sujets en tête que tu as envie de publier Quel est, entre guillemets, l'autre pan de la question, c'était quelles sont les productions que tu vas sortir en termes d'articles et où on peut te retrouver, instant promo, fais-toi plaisir.
Là, je bosse sur deux autres bouquins. Comme il n'y a rien de concret, je ne vais pas trop en parler, mais il y en a un qui reste en Colombie et l'autre qui reste en Amérique latine. J'aime pas trop en parler, c'est pas parce que c'est une exclue ou quoi, mais c'est pour pas trop me porter la choumoune, je suis un peu superstitieux sur certains trucs.
Pas de problème.
Et, euh, Mais dès que ça verra le jour, tu seras le premier à qui j'en parlerai.
Merci.
Et ta deuxième question, c'était quoi, désolé?
En termes de
Ah oui,
d'activité.
bah, actuellement, moi, je suis journaliste au Havre, là, donc depuis 2 ans, chez 76 Actu. Donc, pour l'instant, voilà, je suis là. Après, voilà, si t'es pas havrais, c'est de la presse locale. Donc, c'est des articles qui vont intéresser surtout les Havrais. Ou en tout cas les Sénomarins et voir les Normands. Et voilà, donc, pour raccrocher un petit peu au foot, j'essaie de parler du hack un petit peu toutes les semaines, maintenant qu'ils sont en Ligue 1 et qu'on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, autant en profiter, quoi.
Ouais,
Donc,
bah autant.
voilà, c'est surtout là qu'on peut me retrouver. Puis peut-être sur Twitter prochainement. Ah, et j'oublie un truc très important, c'est que tous ceux qui aiment l'Amérique latine, sans que ce soit forcément le foot latino-américain, j'ai un compte Insta et Facebook, mais surtout Insta, qui s'appelle Kepasa, Kepasa.al, pour Amérique latine, sur lequel tous les jours je fais un post sur l'Amérique latine, l'actualité, la culture, l'histoire, voilà, pour faire connaître ce continent merveilleux à la France, au-delà, aux Français, et même aux latino-américains ou à tout le monde. Pour aller un petit peu au-delà des clichés qu'on peut tous avoir, football égale Brésil égale football, Colombie égale trafic de drogue, et Mexique égale Faritas, quoi. Pour
Hey.
éduquer un petit peu sur ce que c'est l'Amérique latine, parce que c'est hyper intéressant, il y a des milliards de trucs à raconter, donc c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps aussi, ouais.
Eh ben, quand on fera la communication du podcast, du moins moi, quand je ferai le, comment ça s'appelle, la communication sur Twitter, c'est mon canal
Ouais.
privilégié de communication. Eh ben, je mettrai le lien de ton compte Insta à la fin du petit
Ok,
fil.
bah super.
Comme ça permettra aux personnes qui veulent se cultiver sur l'Amérique latine de pouvoir retrouver tes productions quotidiennes.
Ok, au top, merci beaucoup.
Je t'en prie. Et du coup, on arrive à la fameuse question des recommandations, celle que je pose à tout le monde qui répond favorablement à mes sollicitations. Donc, quels sont pour toi les trois ou moins ou plus, ça dépend. Recommandations de livres, idéalement de foot, que tu peux faire à celles et ceux qui vont écouter ce podcast.
Ok. Bah oui, de toute façon, j'en ai pris trois, comme tu m'avais dit. Alors, pour être totalement transparent, je suis allé voir dans ma bibliothèque tout à l'heure quand tu m'as dit qu'il fallait trois bouquins. Est-ce que je peux en mettre un en espagnol ou pas?
Tu mets tout, parce qu'il n'y a pas
Ok.
il
Ok,
n'y a
je vais
pas de
tout
filtre,
recommander.
mais voilà.
Le premier, c'est celui dans lequel je suis actuellement, Football Geopolitics. Qui mélange toutes les affaires géopolitiques, qui permet de comprendre la géopolitique mondiale, européenne, à travers les affaires de foot. C'est hyper intéressant. Ça, j'aime beaucoup. J'aime bien les bouquins qui mélangent, qui parlent pas seulement de foot, en fait, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Pour moi,
Est-ce
c'est
que je me permets juste, c'est le tome 1 ou le tome 2 que tu as? Enfin, que tu
Moi, c'est le 1.
recommandes? D'accord, ok, très bien. Parce qu'il y a le 2
Ok,
qui est
bah tu vois, je
sorti,
savais pas
si
du
tu
tout.
veux, pour te
Ok.
faire une petite. Et c'est Kevin Vessière du
C'est
FCB
ça.
Géopolitique qui signe ça.
Ouais, voilà, c'est ça. Et là, je savais même pas du tout qu'il y avait un tome 2. Je vais courir me l'acheter. Le deuxième, c'est un peu un classique, je pense. Le titre est un peu bête, mais en vrai, je pense qu'il peut servir à tout le monde. Sauf si tu t'appelles Mathieu Baudemer ou que tu es vraiment un crack, mais comment regarder un match de foot et des cahiers du foot? Il est très bien foutu, hyper intéressant. Il y avait aussi 9m15, l'enfer du tireur de penalty. Je viens de m'en rappeler, celui-là, il est incroyable aussi. En France, quand on entend parler à
Le
tout bout de
tri.
champ que ouais, voilà, c'est la loterie ou qu'ils n'ont pas eu de bol parce qu'ils ont perdu au penalty ou qu'on n'a pas travaillé les pénaux, enfin les tirs au but. Vraiment, une fois que vous aurez lu ce bouquin, vous ne pourrez plus jamais dire ça parce que c'est une encyclopédie des tirs au but. Je ne sais même pas comment l'auteur, je crois que c'est un Anglais, a fait
Ben
pour aller
Littleton.
aussi loin là-dedans. Et en espagnol, j'ai Los Goles de la Cocaïna, que je cite D'accord. beaucoup, et donc qui permet vraiment d'approfondir le bouquin que j'ai écrit. Vraiment pour ceux qui ne seront pas rassasiés à la fin de mon bouquin, et ce livre-là, je crois que c'est Marta Soto qui l'a écrit. Il est hyper complet, il va vraiment dans les fins fonds des arcanes de certains clubs de foot. C'est intéressant de voir en fait comment ils ont été gangrénés, et surtout en fait elle explique comment ils s'en sont plus ou moins sortis. Et donc ça c'est pour les bouquins de foot. Et sinon je recommanderais bien un, pour rester dans le même thème, que j'ai bien aimé, qui n'est pas sur du foot, c'est les narcos français brisent l'omerta. C'est vachement intéressant sur voilà, le crime organisé en France sur plusieurs époques. Et on voit qu'on a quand même une influence mondiale là-dessus. Et que des fois, une fois que tu l'as fini, tu te dis que le doigt accusateur qu'on peut pointer parfois, il devrait peut-être plus se transformer sur un pouce dans notre direction, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à nous reprocher aussi sur ce point. Et tu te rends vraiment compte dans ce bouquin, moi ce qui m'a choqué surtout, c'est les guéguerres que se font les flics entre eux, entre, je sais pas, les différents, je sais pas, la BAC, la BRI, etc., la PJ. Tu vois vraiment compter, des guerres contre-productives, quoi.
Ouais, sans compter les guerres internes, comme tu dis, douane et police, ça se tire.
Voilà, ouais, carrément, c'est ça. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. C'était surtout à ça que je pensais en plus, et douane et police. Ouais. Donc voilà, je t'ai mis le petit bouquin bonus qui n'a pas grand-chose à voir avec le foot, mais
en lien avec le tien. Quand même.
Parce et j'imagine que là, s'il y en a qui écoutent le podcast, c'est parce qu'ils aiment le foot, mais peut-être que l'histoire narcos et tout, ça a pu les intéresser. Donc. Donc ça fait ouais, un petit lien aussi.
Après notre auditoire il est très curieux, donc je pense que si on peut donner à chaque fois des petites pistes pour aller plus loin sur un sujet, on est preneur. En tout cas moi pour ma part je suis preneur, donc je me le note le bouquin et je pense que je me le prendrai pour voir un peu ce que ça donne.
Ça marche.
Nickel, bah, je te remercie beaucoup Victor pour cette participation. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, on va suivre de près les productions que tu as à faire. Et s'il y a une production livre de foot, et ben on se fera un plaisir de te redonner à nouveau la parole.
Et ben ça roule. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir permis de parler de ce bouquin.